Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à cette émission Foi et Turbulence. Mon nom est Francine Robert. Mon invité aujourd'hui est monsieur Rémi Bourdon, qui est un prêtre du diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Il est responsable de la catéchèse à tous les âges de la vie dans le diocèse et de la dimension communautaire aussi, de la vitalité des communautés chrétiennes. Cette responsabilité l'a conduit à réfléchir évidemment sur les défis qu'on doit relever aujourd'hui pour revitaliser ou dynamiser les communautés chrétiennes. Et un des aspects qu'il souhaite valoriser plus particulièrement, ce sont les petits groupes d'appartenance, les petits groupes d'expérience ecclésiale. Et c'est sur cet aspect que nous échangerons aujourd'hui. Rémi Bourdon, bonjour, bienvenue à l'émission.
Bonjour.
Alors, on va parler, entre autres, Rémi, des expériences de petits groupes de partage. C'est pas mauvais de regarder un peu d'où on vient, quelques décennies en arrière, pour éclairer les orientations qu'on doit prendre maintenant. Et je me souviens, quand moi, je travaillais en pastoral scolaire au diocèse de Saint-Jean-Longueuil, c'est les années 70, on parlait déjà de susciter des petits groupes de communautés chrétiennes pour renouveler un peu l'expérience communautaire. Est-ce que vous pouvez nous parler des projets à cette époque-là?
Oui, ça a commencé dans les années 70. De 70 à 75 à peu près, on a commencé à mobiliser le personnel pastoral, les forces vives des paroisses, par des priorités diocésaines à ce moment-là. On voulait implanter l'esprit de Vatican II et prendre le tournant pastoral qui s'en suivait. Ces priorités ont visé, entre autres, l'engagement chrétien, la question sociale, ou encore, on voulait redéfinir le sens du mot « pratique chrétienne » pour qu'on comprenne qu'il s'agissait plus que la pratique dominicale. Pour promouvoir la participation des laïcs à la vie de l'Église, les services diocésains ont organisé des grands rassemblements. Je me souviens, entre autres, d'un de ces rassemblements dans une polyvalente de la Rive-Sud, je pense que c'était en 73-74, on était environ 700 participants. Des ateliers permettaient à tout le monde de s'exprimer, de s'écouter, ce qui a permis d'être attentif à la réalité quotidienne, d'ajuster les priorités à la vie de tous les jours. Ça a permis de développer, à ce moment-là, le sens de la co-responsabilité de tous les baptisés à la vie de l'Église. Et ça s'est concrétisé par l'implantation, entre autres, de conseils de pastoral paroissial. On parle de CPP habituellement.
Ouais.
Dans ces mêmes années, les paroisses ont participé à l'opération Chantier de l'OCQ.
Ah oui, je me rappelle.
C'est l'Office de catéchèse du Québec. Et ces chantiers consistaient en la mise sur pied de groupes de partage pendant le carême. Les thèmes abordés étaient centrés sur la dimension sociale de l'engagement chrétien. Et les échanges devaient déboucher sur une réalisation concrète. Par exemple, une paroisse avait parrainé dans le temps l'ouverture d'une maison pour les personnes âgées de son milieu.
Mm-hmm. Et le bilan de cette période, il était positif?
Ben, on a constaté que ces priorités et les actions posées ont permis de mobiliser les chrétiens à l'interne, mais pas tellement ceux qui avaient déjà quitté la pratique régulière.
OK.
Ce noyau qu'on a pu alors consolider a quand même continué, je dirais, à s'évaporer, à diminuer. Alors, avec du recul, on peut dire qu'on peut faire le même constat pour les autres périodes jusqu'à aujourd'hui. On consolide les acquis, on ralentit l'érosion, mais on ne peut pas l'arrêter. Comme si c'était toujours la même base de chrétiens d'il y a 30 ans qui continue à fondre, mais sans se renouveler.
Mm-hmm.
Et un autre facteur déterminant pour la vitalité pastorale fut le mouvement Cursillo.
À peu près à la même époque?
Oui, vers 1975. Les cursillistes ont été très missionnaires dans le diocèse en étant tournés vers leur milieu de vie d'abord pour aller chercher ceux qu'on appelait dans le temps les distants.
Ils sont un bon exemple de ce qui vous intéresse, c'est-à-dire des petits groupes, hein, les cursillistes, si je me rappelle bien.
Tout à fait.
Ouais.
C'était l'époque où ceux qui s'étaient éloignés avaient encore un héritage chrétien. Mm-hmm. Alors, quelqu'un qui décidait de recommencer à cheminer dans le mouvement Curcio était parrainé par un membre senior.
Intéressant, ça.
Mais au bout de quelques années, les Curcios se sont comme repliés sur les pratiquants pour recruter et maintenir leur membership. Et leurs activités de parrainage se sont transformées plutôt en récollection pour les gens qui étaient à l'intérieur de la communauté.
OK.
Alors, en recrutant de plus en plus à l'interne de la communauté chrétienne, il n'y avait donc pas de nouveaux arrivants de l'externe. On pourrait dire que sur une période de 10 ans, leur fonction de départ, d'intermédiaire entre les dissidents et les pratiquants, cette fonction-là a été remplacée par une fonction de soutien spirituel aux pratiquants plus fervents. On peut se demander si la perte progressive du réflexe missionnaire d'aller vers les Curcios, d'aller vers l'extérieur pour recruter de nouveaux membres, ce serait pas, à certains égards, la raison du déclin du mouvement Curcio.
Ah oui. Mm-hmm.
Le mouvement Curcio a suivi la même courbe de décroissance que le groupe des pratiquants paroissiaux.
Je vois. Pourtant, ça correspondait quand même, pour ceux qui étaient là, à un besoin d'approfondir leur foi, de prendre la parole. Mais je suppose que leur déclin, ça doit être dû aussi, comme pour tout le reste de l'Église, à l'évolution qui a eu lieu à cette époque-là, l'évolution socio-religieuse du Québec.
Oui, en effet. Dans les années 70, la majorité des adultes avaient reçu, on le sait, une éducation chrétienne dans la famille, à l'école et à la paroisse. Alors, c'était beaucoup plus facile de recommencer, de se reconnecter à la vie chrétienne. Mais dans les années 80, on était déjà avec une majorité peu éduquée à la foi chrétienne.
Mm-hmm.
À part l'enseignement religieux scolaire au primaire, ni la famille, ni la paroisse n'apportaient vraiment une contribution signifiante. Le bagage religieux des baptisés est devenu très pauvre, sinon absent. Mm. Alors, être missionnaire aujourd'hui, en 2013, c'est autrement plus difficile qu'en 75.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, pour beaucoup de Québécois, la religion doit rester dans la sphère du privé. Et même, je dirais, dans la sphère de l'intime à la personne. Si bien que les croyants, et là je parle de la grande majorité des pratiquants dominicaux aussi, ils n'osent pas inviter d'autres personnes à des rencontres de croyants.
Ah oui.
Ils craignent que ça apparaisse comme une espèce de sollicitation malvenue.
Ouais, je comprends. Vous nous avez parlé des années 70. Il me semble que dans les années 80, déjà, on se rendait compte, évidemment, du déclin des communautés chrétiennes. Est-ce que le diocèse a pris de nouvelles orientations à ce moment-là?
De fait, les orientations nouvelles sont venues du service de liturgie. On avait conclu qu'il n'y aurait pas de progrès significatif en liturgie si on ne développait pas la dimension communautaire. Et c'est à ce moment-là qu'on a mis sur pied un service aux communautés chrétiennes avec le mandat de développer des petits groupes de partage.
OK, ça faisait clairement partie de leur mandat.
Oui.
OK.
Oui. Le service aussi aux communautés avait à développer les équipes de pastorale, donc ce qui concernait la prise en charge paroissiale, pastorale globale, et par conséquent, instituer des ministères laïcs, notamment le ministère de coordination.
Donc, c'est le début de l'embauche de laïcs comme agent de pastoral dans les paroisses, à peu près.
De façon plus systématique.
Systématique, oui. D'accord.
En mettant donc en place les équipes pastorales, les prêtres sont passés du rôle du curé traditionnel, seul maître à bord, à celui de membre particulier au titre de son ministère ordonné, membre d'une équipe qui porte ensemble la charge pastorale. Ces ministres laïcs, surtout des femmes,
hein,
oui. D'abord bénévoles, puis ces femmes-là sont devenues donc des ministres dans leur paroisse. Je dirais que ça reste encore aujourd'hui la réalisation la plus marquante, la plus durable du projet donc qui s'appelait Renouveau pour notre Église. C'était la mise en place justement d'équipes pastorales.
Dont le mandat spécifique, je le rappelle, de créer des petits groupes.
Ça faisait partie du mandat.
Vous en avez parlé, oui.
Oui, ça faisait partie du mandat.
OK.
Alors, le virage communautaire ne pouvait donc pas se faire sans ces nouveaux ministères et sans un changement du rôle traditionnel du prêtre. Il fallait aussi que les forces vives de la communauté soient mobilisées. Pas rien créer une structure, mais aller jusque dans la communauté. Pour cela, il fallait d'abord motiver les participants à former une équipe pastorale en vue ensuite de transformer la communauté. De là est née la session de fin de semaine qu'on a appelée dans le temps « Renouveau pour notre Église ». Cette session visait à renouveler la vie des communautés en développant la fraternité et la participation des laïcs. Alors, pour ce faire, un des moyens privilégiés était la mise sur pied de petits groupes de partage, justement, et offerts à tous les baptisés. C'est d'ailleurs à cette époque que le modèle des communautés de base a été expérimenté un peu partout au Québec.
Oui, je me souviens, l'expression « les communautés de base ». Oui, ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Rémi, vous nous avez parlé du projet Renouveau pour notre Église et ça me rappelait un autre projet qui s'est appelé Renouveau aussi, je pense, dans les années 80. Ça, c'était des groupes de partage biblique, hein, me semble.
Oui. Effectivement, le projet Renouveau tout court en 86, un projet qui était centré sur l'expérience des petits groupes de partage biblique. En fait, ce nom « Renouveau » était la traduction de « Renew », un projet alors en développement un peu partout aux États-Unis.
Et on avait adapté le matériel pour le diocèse.
Traduit, adapté, avec la permission des auteurs, je me souviens. C'était, je pense, le diocèse de Newark. Le pari de ce nouveau projet diocésain, finalement, était de donner la parole à tous les chrétiens entre eux, pour qu'ils découvrent par eux-mêmes toute la richesse des textes bibliques, qu'ils découvrent que la parole de Dieu vient éclairer leur vie quotidienne et vient pour leur donner un surcroît de sens à cette vie quotidienne. Alors, Renouveau, Renew, reposait sur la parole de Dieu. Le partage autour de cette parole reposait aussi sur des temps de prière et d'engagement dans son milieu.
Ouais. Et je me souviens avoir collaboré, moi, à la mise en œuvre de démarches, de questions, de réflexions sur l'Évangile. Il me semble que ça avait très bien marché, ce projet.
Oui, parce que pratiquement toutes les paroisses du diocèse, pendant 2 années et demie, sur 5 semestres, ont participé à ce grand chantier de paroles partagées.
Ouais.
Au plus fort du projet Renouveau, il y avait 8000 personnes qui faisaient partie de petits groupes de partage.
8000, c'est pas rien.
Alors, Renouveau, pour ces gens-là, était une nouvelle manière de faire église, une manière différente de faire paroisse. Des centaines de groupes se sont servis des outils d'accompagnement dont vous avez parlé tout à l'heure. Et il y a eu des centaines d'animateurs, d'animatrices qui ont été formés à cette fin. Avant chacune des 5 étapes de renouveau, l'équipe diocésaine rassemblait environ 700 personnes pour qu'elles s'approprient les contenus des démarches, les indications techniques, les méthodes d'animation. Alors, les gens repartaient dynamisés avec un sentiment de compétence pour prendre en charge l'animation communautaire, même là où parfois le curé était tiède vis-à-vis renouveau.
Ouais, et ces animateurs et animatrices étaient des bénévoles. Les personnes et les participants, qu'est-ce qu'ils ont retenu finalement de...
Ben, récemment, il y a une participante qui me racontait avec enthousiasme et un peu de nostalgie en même temps ce qu'elle avait vécu. Ce qui l'avait le plus marqué, c'était l'expérience dans son petit groupe de la fraternité entre les membres, la découverte de la parole de Dieu, accessible à tous pour donner du sens à leur vie. Elle se souvenait aussi de la convivialité qui s'était développée entre les participants aux messes du dimanche, les messes de la paroisse. Tout le monde, disait-elle, se reconnaissait, se saluait chaleureusement et s'échangeait même des nouvelles personnelles. Ça me fait aussi penser en même temps à un exemple à l'opposé qui m'a été aussi raconté récemment. Une femme qui venait régulièrement à la messe du dimanche dans sa paroisse s'est absentée pendant quelques mois à cause d'un cancer, donc en convalescence. Et quand elle s'est remise à fréquenter l'église, Personne ne s'est informé d'elle.
Personne s'était aperçu qu'elle n'était pas là seulement.
Exactement. Ouais. Et ensuite, elle m'a raconté qu'elle a fait partie d'un petit groupe où tout le monde s'inquiétait du moindre bobo qui empêchait la participation à une réunion.
C'est sûr que cette dimension de fraternité, Rémi, elle me paraît fondamentale. Je me souviens qu'à cette époque-là, les années 80, on identifiait la fraternisation comme une des causes de succès de certains mouvements protestants qui attiraient beaucoup de Québécois.
Ouais.
Et c'était cette dimension fraternelle qui jouait.
Oui, effectivement, dans ces années-là, les églises baptistes évangéliques se sont ouvertes un peu partout.
Oui, ont attiré beaucoup de gens. Alors, la fraternité, la possibilité de discuter, de prendre la parole sur l'Évangile, les petits groupes. Le projet Renouveau, ça a dû chambouler pas mal la vie de la paroisse. Ça mobilisait plein de gens.
Oui. De fait, ce qu'on souhaitait à plus long terme, c'est sortir du modèle clérical en entourant le prêtre d'une équipe d'animation pour ensuite en arriver à une conscience communautaire que tout le monde peut se sentir responsable. Dans ce nouveau contexte, le prêtre devait assurer une présence essentielle à l'équipe d'animation comme en étant l'inspirateur, le mobilisateur pour les diverses comités de la paroisse. Alors, plus que de simples exécutants, ces comités devaient transmettre et soutenir l'esprit du projet communautaire global.
Mm-hmm.
On était convaincus qu'un noyau important de paroissiens pouvait devenir responsable de l'animation spirituelle des groupes de partage sans avoir toujours besoin de spécialistes à côté d'eux.
La manière dont vous exprimez ça, Rémi Bourdon, ça me donne l'impression que vous pensiez que ces groupes-là continueraient.
Oui, exactement.
C'est ce que vous pensiez. Ça a fonctionné avec succès, 2 ans et demi, 3 ans, mais les suites, je me souviens pas, moi, s'il y en a eu. Qu'est-ce que vous...
Je pense que les responsables ont pas vu, ont pas saisi que Renouveau visait à transformer les mentalités de façon permanente, à inscrire dans la durée cette nouvelle habitude collective de faire Église autrement. Je dirais que Renouveau visait à plus long terme un changement structurel pastoral.
La manière même de fonctionner.
C'est ça. C'était pas rien un projet ponctuel.
Mais plein de gens, plein de responsables ont pas vu ça comme ça.
Non.
Il me semble que ça implique un certain manque de vision là chez les responsables pastoraux, incluant le leadership diocésain. Il y aurait peut-être dû y avoir là, la perception que cette expérience-là était prometteuse, d'avenir, féconde.
Mais je pense que les services diocésains ont été mobilisés par d'autres choses, et c'est comme si on n'avait pas pu maintenir à la fois la mobilisation pour restructurer administrativement les paroisses et en même temps les restructurer pastoralement.
Quoi qu'il en soit, des raisons bonnes et moins bonnes, c'est pas resté une priorité ni modèle de référence. Et évidemment, on sait bien que le contexte des années 80 était facile pour personne au niveau religieux avec la sécularisation.
Oui, avec le recul des années maintenant, on se rend compte que, justement, ce contexte socio-religieux rendait plus difficile la poursuite de renouveau. Bon, c'est une sécularisation progressive, puis l'agressivité, ça fait un cocktail un petit peu difficile pour l'évangélisation aujourd'hui.
Ouais. D'autres facteurs?
Oui, un deuxième facteur, ça va plus de soi de durer pour un groupe de partage, surtout quand ils traversent des moments de crise ou qui s'installent dans la routine. Donc, c'est les deux défis à surmonter constamment dans tout groupe. Troisièmement, il y a aussi l'individualisme qui rend beaucoup plus difficile toute forme d'appartenance, toute forme de fidélisation à des activités communautaires. On est dans la culture de la prédominance, je veux dire, je le fais si ça me tente.
Ouais. C'est vrai. En même temps, les gens cherchent à refaire le tissu humain. Aujourd'hui,
oui, parce
là,
que tu peux pas t'en passer.
Non, c'est ça.
On peut pas s'en
Alors,
passer.
C'est... Ouais, je comprends. Ouais.
Un autre élément aussi que je voudrais souligner, qui a comme refroidi, Il faut se rappeler que Jean-Paul II a tablé sur les grands rassemblements, les rassemblements mondiaux, pour renouveler l'Église. Oui. Pour lui, c'était le dispositif prioritaire. Donc, il va privilégier l'évangélisation de masse et en décourageant, entre autres, le maintien de communautés ecclésiales de base, jugées trop à gauche, en tout cas en Amérique latine.
Ouais.
Ce double message de l'Église universelle a fait douter, je pense, de la pertinence des petites communautés. On craignait qu'elles prennent trop d'autonomie.
Ouais, je vois.
Et un autre facteur aussi qui caractérise l'Église catholique, c'est qu'elle est ouverte au tout venant. On pourrait dire qu'elle gère une religion à plusieurs vitesses. Elle gère un espace spirituel où cohabite une minorité de fervents croyants avec une majorité de croyants ordinaires, y inclut des croyants plutôt tiennes, des croyants qui en prennent et qui en laissent, et d'autres encore qui mélangent croyances chrétiennes puis superstitions.
Ouais.
Mais elle veut maintenir cette tension ouverte, cette tension, je dirais, catholique. Alors, on veut surtout pas éteindre la mèche qui fume encore, même si on n'a pas les moyens, souvent, de la raviver.
Ouais.
Alors, il est difficile de durcir les conditions minimales pour être membre, contrairement à certaines communautés protestantes qui vont discriminer à l'entrée au point, pour certaines, de
ça devient des sectes.
Alors, il faut comme accepter que dans notre Église catholique, il y a du monde à grande et à petite vitesse, des flambeaux, puis des petites mèches presque éteintes.
Puis en même temps, faut pas que cette ouverture-là à tout le monde conduise, je dirais, à chercher la formule qui va convenir à tout ce monde-là. Parce que sinon, ça va nous amener nécessairement à niveler par le bas, hein, c'est-à-dire à offrir le minimum que tout le monde peut suivre, au lieu de faire une offre diversifiée selon les vitesses. Vous avez parlé de croyants de vitesse, c'est un peu ça.
Ah, si on évalue renouveau à partir de ce repère, on peut dire qu'on a réussi à faire passer un certain nombre de croyants de la petite à la grande vitesse, même si c'est pas tout le monde loin de là. Hein.
Mais c'est plusieurs milliers de personnes.
Oui. Alors, ces gens-là qui ont participé ont un souvenir ineffaçable de ça, parce qu'ils ont vécu une expérience marquante pour leur vie pendant ces deux années-là.
Comment les prêtres ont vécu ça, le projet Renouveau, Rémi?
On a constaté que pour un bon nombre de prêtres, l'objectif du Renouveau voulait dire remplir à nouveau les églises du dimanche.
Ah.
On avait comme une nostalgie du passé. Lors des évaluations d'étape, des prêtres estimaient qu'on obtenait des petits résultats. C'était pour eux, un constat d'échec.
Ouais.
Ce qui explique que plusieurs ont jeté l'éponge après les deux années et demie. Pour eux, c'était trop difficile de poursuivre. Ils avaient participé à un effort collectif, puis il fallait mettre fin à ça. Par exemple, dans une paroisse, après ces deux années et demie, il y a un laïc qui a pris l'initiative de continuer l'animation de 7 groupes de partage.
7?
7 groupes de partage.
C'est pas 2-3, ça.
Alors, il comptait sur l'appui du curé, mais le curé, il n'y avait aucun intérêt pour poursuivre. Alors, le bénévole a compté sur le soutien du service diocésain. Il faut aussi souligner qu'à ce moment-là, l'évêque a mis la pédale douce pour le suivi assuré pour les services diocésains. Il allait aussi dans le sens souhaité pour la plupart des responsables. La majorité souhaitait ça, donc.
C'est clair que le projet Renouveau a eu du succès. Les participants et les responsables bénévoles s'en réjouissaient. Mais quand ça a été terminé, personne a voulu convertir ça en un modèle permanent d'église. Rémi Bourdon, on a quand même pris le temps beaucoup de regarder le passé. On reste un peu sur notre fin, hein?
Oui, mais pour moi, regarder le passé, c'est donner une chance à l'avenir de reprendre, de revisiter nos actes manqués et de les actualiser pour le futur.
Ah, je comprends pourquoi vous nous avez apporté la chanson « À nos actes manqués » et nous allons l'écouter maintenant.
Soleil, tous les chemins qui me sont passés à côté, à tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils, à tout ce que je n'ai pas été, aux malentendus, aux mensonges, à nos silences, à tous ces moments que j'avais cru partager, aux phrases qu'on dit trop vite et sans qu'on les pense, à celles que je n'ai pas osées. Nos actes manqués, aux années perdues à tenter de ressembler à tous les murs que je n'aurais pas su briser, à tout ce que j'ai pas vu tout près à côté, ce que j'aurais mieux fait d'ignorer. Au monde à ces douleurs qui ne me touchent plus, aux notes au solo que je n'ai pas inventé, tous ces mots que l'autre en fait rimer qui me tuent, comme autant d'enfants jamais portés. Oh, à nos actes manqués. Visage et dentelle croisées, juste frôlées, aux trahisons que j'ai pas vraiment regrettées, aux vivants qu'il aurait fallu tuer, à tout ce qui nous arrive enfin mais trop tard, à tous les masques qu'il aura fallu porter, à nos faiblesses, à nos oublis, nos désespoirs, aux peurs impossibles à échanger. Oh, 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 à nos actes manqués.
Foi et turbulence.
Alors, je suis toujours en compagnie de M. Rémy Bourdon du diocèse de Saint-Jean-Longueuil qui nous parle en rétrospective, je dirais, de la nécessité de proposer aux communautés chrétiennes l'expérience de petits groupes. Rémy Bourdon, c'est clair que le projet Renouveau a été une expérience dans cette ligne-là. Ça a tourné court. Bon, tout ce dont vous nous avez parlé jusqu'à présent, ça disait bien, oui, on voulait privilégier les petits groupes. Ça fait 30 ans. Renouveau pour notre Église, ça a été ça. Curcio, qui a été beaucoup encouragé au diocèse, ça a été ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, après le Renouveau, on a mis de côté la priorité des petits groupes?
De fait, il y a eu une urgence qui était le projet Donner la paroisse de 97 à 2005. Ce projet-là visait d'abord les restructurations administratives et aussi pastorales.
Ah, les fameux regroupements de paroisses,
oui,
c'est ça?
Oui. Même si dans son plan d'action, la priorité des petits groupes et la priorité des petites communautés ecclésiales étaient maintenues. Mais l'urgence des restructurations a mobilisé tout le monde, tout le personnel pastoral, toute l'énergie est passée là-dessus.
OK.
Alors, les petits groupes de partage, c'était pratiquement abandonné à ce moment-là.
Ça n'a pas été mis en œuvre, ça.
Et pour ce qui est des petites communautés, c'est resté à l'état de bonnes intentions.
D'accord.
Pourtant, ça avait fait l'objet d'une publication chez Fides, une publication en provenance de Saint-Jean-Longueuil, en 94 sous le titre « Guide pour les petites communautés ecclésiales okay. ». Et là, on voit que dans l'esprit, dans le temps, c'était Mgr Hubert, dans son esprit, il voulait relancer les petites communautés ecclésiales.
D'accord.
Mais c'est resté sur les tables.
Puis c'est vrai que c'était encore dans l'air à cette époque-là. Moi, je me souviens que mes collègues de l'Institut pastoral ont travaillé... à produire le document officiel de l'Assemblée des évêques qui s'est appelé « Risquer l'avenir ». Et on insistait dans ce document-là aussi sur l'importance des petites communautés locales, des groupes de partage, de l'éducation de la foi des adultes. Mais ça avait rencontré de la résistance. Et pourtant, bon, on était en 92, là, on n'était pas en 1950. C'est clair que c'est une résistance qui n'était pas donc juste à Saint-Jean-Longueuil. Le fait que c'est une priorité qui reste toujours sur le papier. Est-ce que ça vous amène pas, vous, à remettre en question la pertinence des petits groupes? Peut-être que c'est pas une bonne idée.
Ben, je pense qu'on peut pas remettre en doute la pertinence des petits groupes de partage, ni des petites communautés ecclésiales.
Non?
Non. Parce que Renouveau l'a démontré de 86 à 89. Quant aux petites communautés ecclésiales, elles restent une manière de faire église répandue partout en Amérique latine puis en Afrique. Encore en 2007, pour la conférence générale de l'épiscopat latino-américain, ce que j'ai trouvé dans leur document, pour la nouvelle évangélisation et afin que les baptisés vivent comme d'authentiques disciples et missionnaires du Christ, les petites communautés ecclésiales sont pour nous un moyen privilégié.
Ouais.
On peut penser aussi aux expériences actuelles en Europe, entre autres, je pense au diocèse de Poitiers, qui s'est inspiré de cette manière de faire, si bien que la restructuration des paroisses n'a pas entraîné chez eux la disparition des communautés locales, mais au contraire, elles ont été revitalisées. Parce que l'évêque a suscité un nouveau leadership chez les baptisés, une prise en charge de chacune des 320 communautés par des équipes d'animation pour chacune d'elles, équipes d'animation locale, composées de 5 délégués, personnes qui veillent à l'animation de l'ensemble, un autre chargé de la vie matérielle, troisième chargé de la prière, la célébration, quatrième chargé de l'annonce de la foi, et enfin, l'attention aux plus démunis.
OK. Et ça, c'est des bénévoles?
C'est des bénévoles.
Laïcs, donc, qui prennent en charge la communauté chrétienne locale.
Exactement.
À petite
et
échelle,
ce ouais. modèle d'une équipe de bénévoles en responsabilité, hein? C'est
ouais.
pas en service.
Oui, c'est pas pour préparer le café à la rencontre de préparation au baptême.
Mais ça se répand partout en France actuellement. Il y a une vingtaine de diocèses qui l'ont choisi, adopter ce modèle-là.
Avec des petits groupes, des communautés ouais. de base, on pourrait dire.
Oui. Plus large, des fois, ce sont des petits villages. Bon, on sait que la oui. France, il y a des milliers de petits villages. Donc, des fois, ça peut rassembler autour d'un clocher,
okay,
comme
c'est
ils disent.
La communauté
c'est
chrétienne.
C'est une cinquantaine de personnes.
Locales, je comprends.
Mais il peut y avoir quelque chose qui ressemble à des petites communautés ecclésiales dans des quartiers urbains, dans les villes. Une paroisse qui est communion de petites communautés.
Oui, je vois.
Alors,
est-ce qu'on a ça au Québec?
Le modèle se retrouve dans des diocèses avec des grands territoires, comme le diocèse de Québec, où on a pris cette formule-là. Il s'agit d'aller voir dans le site du diocèse de Québec, on parle d'équipe d'animation locale. La même chose, en tout cas dans ma recherche, diocèse de Baie-Comeau et Rouyn-Noranda. Mm-hmm. Alors, les équipes d'animation locale reçoivent la formation et ils ont aussi un soutien de la part du diocèse. Il y a des personnes qui sont affectées justement au soutien des petites communautés et des équipes d'animation locale.
OK. Donc, c'est réaliste?
Oui. Pour moi, l'introduction d'un nouveau maillon dans la chaîne du leadership pastoral, une équipe de chrétiens, hommes-femmes, en co-responsabilité avec les permanents pastoraux, pour moi, ça m'apparaît indispensable pour renouveler la vision et les manières de faire.
Mm-hmm.
Parce que actuellement, on prend de plus en plus conscience que la vie de la communauté ne peut pas seulement reposer sur des ministères qui soient ordonnés ou laïcs. On doit de nouveau se poser la question, ou les questions, je dirais, comment élargir la participation de tous les baptisés? Comment renouveler le bénévolat pour une prise en charge de nouveaux aspects de la vie communautaire? Je pense particulièrement à des rassemblements autres que liturgiques pour développer le sens de l'appartenance, la vie fraternelle et surtout l'attention aux plus démunis.
Mm-hmm. Et est-ce que Saint-Jean-Longueuil s'oriente un peu dans cette direction-là?
La question vient de se poser de façon indirecte dans une paroisse qui a le projet de démarrer 3 petites communautés ecclésiales.
Donc, c'est pas une décision d'orientation diocésaine. L'idée vient d'un endroit en particulier qui a envie d'essayer quelque chose.
C'est-à-dire que c'est une orientation diocésaine qui est actuellement à l'étude et qui, en même temps, doit faire l'objet d'une expérimentation. Alors, l'équipe de pastoral, formée d'agents mandatés, donc salariés, mais pour ces 3 petites communautés ecclésiales, l'équipe d'animation locale va être formée de bénévoles.
Ouais.
Évidemment, avec le soutien des membres de l'équipe pastorale. Alors, comme prêtre ou agent de pastoral, on a un défi. Je dirais, plus qu'un défi, c'est une conversion pastorale en ce qui concerne un vrai partage des responsabilités pastorales avec d'autres membres de la communauté, un véritable partenariat ouais. dans l'exercice du leadership pastoral.
OK.
Je pense qu'on pourrait apprendre, entre autres, actuellement, de l'Église anglicane qui a lancé, j'ai trouvé ça dans mes nombreuses recherches de sites, l'Église anglicane, donc, a lancé un grand chantier d'évangélisation en dehors des communautés paroissiales traditionnelles. Un chantier qu'ils ont appelé Fresh Expression Church, c'est en Angleterre. On fait par ça une recherche-action sur une nouvelle manière de faire communauté pour et par des gens qui ne font plus communauté d'église ou qui sont mal à l'aise avec l'appartenance avec l'église traditionnelle, la communauté traditionnelle.
Donc, ils créent d'autres petits groupes.
C'est ça. Alors, cette expérimentation, ce qui est intéressant, c'est que ça commence à s'implanter aussi en France du côté protestant.
Mm-hmm.
Alors, dans un site web qui se nomme le site de la culture chrétienne interconfessionnelle, on trouve une description très détaillée de ces communautés chrétiennes émergentes.
Et cette description-là, il y a des choses qui vous ont plu, qui ont attiré votre attention?
Oui, d'abord, la manière différente de réfléchir sur la communauté. Ça nous fait entrer dans un nouvel état d'esprit. L'expression qu'ils emploient ou la formule qu'ils prennent, c'est, ils disent, nous, de la communauté traditionnelle, désirons venir à vous, vous servir, demeurer avec vous. Et si vous le désirez, nous vous aiderons également à devenir une communauté dans la manière qui vous conviendra, dans votre style et non pas dans le nôtre. Alors, c'est vraiment pas venez à nous, mais on va aller à vous. Alors, c'est la conversion pastorale.
Gens.
Comment
ouais.
passer de cette expression «
venez
vers nous,
venez chez nous
mais ouais. on va aller vers vous ».
Et à qui ils vont faire ces propositions-là? Qu'est-ce qu'ils visent?
Ils énumèrent plusieurs catégories. D'abord, des gens qui sont encore membres d'une communauté, mais qui veulent aller plus loin. Des communautés existantes qui veulent se renouveler à travers une nouvelle écoute du milieu. Donc, il faut qu'ils se prennent autrement pour servir le milieu.
Ouais.
Il y a aussi des catégories de croyants qui trouvent plus leur compte dans le cadre de la grande communauté paroissiale. Ils ont envie de rassemblements plus fraternels où, notamment, il y a la circulation de la parole. Ils veulent sortir du mutisme traditionnel.
Oui, et donner la parole aux gens.
C'est ça. Par ailleurs, du côté catholique, notamment en France, il y a l'expérience des dimanches autrement qui va, à mon avis, un peu dans ce sens-là. C'est en train de faire une brèche dans l'uniformité des rassemblements liturgiques. Par les dimanches autrement, on veut diversifier les activités en fonction des besoins, des désirs des participants. Et dans ce sens-là, on est plus fidèle à ce que doit être le rassemblement dominical, parce que rassemblement dominical veut dire plus que rassemblement eucharistique.
Vous avez entendu la question que j'avais dans ma tête.
Ah bon? Alors, normalement... le dimanche...
Ben oui, on se dit, rassemblement dominical, c'est la messe,
moi,
non?
Je dirais théologiquement, le dimanche matin doit être plus que seulement le rassemblement eucharistique. il devrait permettre des temps pour fraterniser, par exemple, échanger des nouvelles heureuses pour se réjouir, tristes pour s'encourager, s'entraider. Il devrait y avoir un temps, des fois, pour manger ensemble et goûter même un repas communautaire à certaines occasions plus festives.
Mm-hmm.
Le dimanche devrait aussi être l'occasion de se demander ensemble comment être concrètement présence d'Évangile dans son milieu de vie. Des engagements sociaux sont possibles, mais on les voit pas parce qu'on n'y réfléchit pas toujours.
Oui, ou pas ensemble, chacun de notre côté.
Comment contribuer ensemble au vivre ensemble en ayant le souci d'intégrer et laisser pour compte?
Oui.
Bon, à cet égard, moi, comme responsable diocésain de la vie des communautés, j'ai élaboré un projet qui suggère ces types d'activités pour les dimanches autrement. Il devrait bientôt être expérimenté dans une communauté paroissiale qui a déjà cette culture de la convivialité, surtout depuis qu'ils ont dévissé les bancs pour les remplacer par des chaises.
C'est incroyable parce que cette phrase-là, il me semble que je l'ai entendue il y a aussi bien il y a 25 ans, où quand on construisait non plus des églises, mais des centres communautaires, qu'on se disait ça va favoriser l'interaction. Donc, vous avez un projet de dimanche autrement. Dimanche autrement, ça veut dire avec ou sans Eucharistie, mais il se passe d'autres choses.
Oui.
Dans le document que vous m'avez donné, vous signalez des gens à qui vous aimeriez que ce soit proposé, des catégories de personnes. Vous permettez que j'en nomme quelques-unes?
Oui, allez-y.
Par exemple, une série de dimanches autrement pour les parents qui demandent le baptême pour leurs enfants ou pour des couples. Bon, je fais une parenthèse, Rémi. Ces gens-là ont déjà des activités de préparation. Ce que vous proposez, c'est que ça marque le dimanche. Ces activités-là soient leur dimanche.
Exactement.
Ça, je trouve ça le fun. Ça pourrait être proposé à des familles dont les jeunes enfants sont en catéchèse et qui aimeraient poursuivre, aller un peu plus loin pour les parents.
Et même la catéchèse pourrait se tenir le dimanche matin. Pourquoi pas?
À la place de la messe.
Pour eux, c'est pas à la place de la messe, puisqu'ils viennent pas à la messe.
Ah oui, les enfants.
Oui, et les parents des enfants.
Oui, de toute façon.
Ce qui empêche pas de temps à autre des célébrations eucharistiques particulières pour ces groupes-là.
Oui, je comprends. J'allais apporter une objection qui peut être dans l'esprit de bien des gens, qui est pas la mienne, mais je l'ai entendu souvent des gens, particulièrement des responsables pastoraux, qui se disent « si on propose autre chose le dimanche, les gens viendront pas à la messe ». Faudrait peut-être se faire à l'idée que de toute façon, ils viennent pas à la messe, alors peut-être ils viendraient à autre chose. Bon, je ferme la parenthèse. Je continue à mentionner, dans le document que vous m'avez donné, personne à qui vous aimeriez proposer ce genre d'activité. Par exemple, ça peut être des adultes qui sont en démarche de catéchuménat ou des adultes qui sont des nouveaux baptisés et qui sentent, avec raison d'ailleurs, le besoin de vivre une expérience de vie communautaire un peu intense. Et bien sûr, ils se retrouvent dans quelque chose d'un peu plus froid dans un contexte de messe traditionnelle. Ça pourrait être les aînés qui sont dans des centres d'accueil, par exemple, ou des résidences. Ça pourrait être des personnes dont la foi les pousse à vivre un engagement social, qui sont au service du développement dans leur milieu ou de l'aide aux démunis. Ça pourrait être simplement pour des gens qui veulent un ressourcement plus spirituel ou un échange biblique ou un groupe de discussion. Tout est possible.
C'est ça. Autre chose, autres activités ailleurs que dans un cadre liturgique. Cependant, ce que j'ajouterais comme exemple aussi qui s'est développé depuis la dernière année au diocèse, c'est la messe qui prend son temps. D'une certaine façon, on pourrait dire que c'est un dimanche autrement, en tout cas c'est une messe autrement, où à l'intérieur même de la messe, les gens sont appelés à partager.
À prendre la parole?
Oui, mais la messe qui prend son temps vise un segment de recommençants et surtout, si ma mémoire est bonne, des jeunes. Je pense de 18 à 35 ans. Ça exclut pas les autres, mais il faut se faire inviter par un jeune si on a 70 ans.
C'est très intéressant. D'abord, c'est dans la mouvance du slow food, hein?
Exactement.
Puis mieux peut-être vaut une messe qui prend son temps par mois que quatre messes par mois qui se font vite et dans lesquelles on se ressource pas beaucoup.
Et se nourrir spirituellement, ça prend du temps, ça prend son temps.
Oui, c'est excellent. Ouais. Ça me plaît, ce projet, Rémi Bourdon. Alors, ça suppose que des gens s'engagent aussi à aider, à animer. Ça demande toutes sortes de talents. Mm-hmm.
Mm-hmm. Oui, il faut vraiment compter, comme pour les équipes d'animation locale, un modèle de prise en charge par des bénévoles qui auraient un soutien des services diocésains. Alors, on a imaginé la création d'une équipe régionale de soutien ponctuel pour accompagner la prise en charge progressive, parce que dans les paroisses, il faut y aller progressivement. Les équipes paroissiales pourront peut-être, après un certain nombre d'années, assumer. Mais entre-temps, il faut donc compter sur une équipe mobile, je dirais.
Oui, je comprends. Avec un certain nombre de ressources, disons, dans cette équipe-là, vous voyez qui?
Pour moi, d'abord, il faut une personne désignée par chaque équipe pastorale, quand on passe chez eux, évidemment, qui assurerait le leadership des dimanches autrement pour sa communauté propre. Ensuite, il faudrait qu'il y ait un prêtre de la région pastorale, une personne compétente en catéchèse, notamment catéchèse biblique. C'est le fondement
même. Oui, c'est rassembleur. Hein?
La parole est au cœur même. Là. Alors, il faut aussi une personne compétente en animation liturgique. C'est pas donné à tout le monde. Puis, une personne, je dirais, qui a un vrai charisme pour l'animation. Habile à mettre du souffle lors des temps de rassemblement de toute la communauté.
Ouais.
Parce que si, dans les dimanches autrement, on a comme un plateau avec de multiples activités, ces gens-là vont se retrouver ensemble pour un temps de célébration, de prière. Donc, il faut quelqu'un qui mette du souffle.
Ouais, ouais.
Puis il faut d'autres personnes interchangeables selon les activités, selon les paroisses, donc les aspects techniques, matériels et même artistiques. Donc, des talents locaux à mettre à contribution.
Ouais. Mais bon, ces talents, mais ces bénévoles, on pourrait bien... J'entends des gens se dire en eux-mêmes, en vous écoutant, ouais, ben, où est-ce qu'il va les trouver, ces bénévoles? J'aimerais rappeler d'abord que pour renouveau, les groupes bibliques, on avait eu quoi, 700 animateurs bénévoles pour 3 ans et demi, animateurs-actrices, on pourrait dire.
Oui.
Mais je pense juste au fameux chantier de la catéchèse des enfants, Rémi, où on a eu besoin de gens pour catéchiser. Et mon Dieu, mais on en a trouvé des centaines de catéchètes partout, dans tous les diocèses.
Oui.
Donc, il y a des gens, il s'agit de proposer quelque chose d'intéressant.
Et il faut interpeller, dire en tout cas, ou exprimer à la personne qu'elle est capable.
Et qu'on a besoin d'elle.
Qu'on a besoin d'elle, qu'elle est compétente. Et finalement, quand elle s'aperçoit que c'est, je dirais, nourrissant pour elle, ça devient des personnes qui s'engagent à plus long terme.
Bien sûr. Mmh. Donc, finalement, y a tout ce qui s'est passé, disons, dans ce bref panorama historique là que vous nous avez fait, mais aussi tout ce qui est resté en chantier puis qui est resté parfois en priorité sur le papier, c'est quand même porteur d'avenir, entre autres les petits groupes, les communautés de base, pour faire église autrement, le chantier des dimanches autrement. Bon, je vois bien que vous avez de l'espérance, Rémi, alors que la situation est quand même pas rose-rose, là. Sur quelle réflexion vous aimeriez laisser nos auditeurs?
Moi, il y a un texte, en tout cas, qui me nourrit et qui me donne justement ce souffle, cette espérance, puis qui me met en projet par rapport à ces nouvelles façons de faire église ou de faire dimanche autrement. C'est le texte de la naissance de Jean-Baptiste. Alors, j'aimerais vous le lire, si vous permettez, et en même temps développer une petite réflexion autour de ça qui m'anime. Alors, le texte, c'est où vous pouvez peut-être le lire, je vous laisse le lire.
Alors, c'est l'Évangile de Luc au chapitre 1, les versets 58 à 63. Le 8e jour après la naissance, c'est l'enfant d'Élisabeth et de Zacharie, les questions, je le rappelle, il vint pour le circoncire, il voulait lui donner le nom de son père, Zacharie. Mais sa mère déclara, « Non, il s'appellera Jean. » Ils lui dirent, « Mais personne dans ta famille ne porte ce nom. » Alors ils demandèrent par geste au père comment il voulait que se nomme son fils. Zacharie se fit apporter une tablette à écrire et il y inscrivit ces mots, « Jean est bien son nom. » Et ils s'en étonnèrent tous. Oui, ça vous inspire?
Moi, ce que je trouve merveilleux dans ce texte, c'est d'abord qu'Élisabeth, une femme, ose casser avec la vénérable tradition patriarcale devant la communauté des voisins. On est en monde juif. Quel sens du patriarcat et de la parole de l'homme?
Oui, tout à fait.
Elle prend la parole du père. Donc, elle se substitue à la parole du père.
Et ce père-là est prêtre, en plus.
Qui est prêtre. Prêtre devenu muet.
Eh oui.
Il est muet, le prêtre. D'habitude, c'est le père qui donne officiellement le nom à l'enfant. Les voisins, d'ailleurs, c'était dit, hein, dans le langage d'aujourd'hui, tel père, tel fils, prêtre de père en fils dans le temps.
Oui.
Donc, Zacharie senior, Zacharie junior. Et là, tout à coup, finit l'engendrement du même par le même. Il s'appellera Jean, dit Élisabeth. Donc, on se tourne vers celui qui va cautionner. Il s'appellera pas Zacharie. Changement de nom, changement de mission, changement de fonction. Jean aura la mission de prophète, non pour continuer le service paternel dans le temps, mais d'aller crier dans le désert. Et lui va attirer des foules dans les eaux du Jourdain. Mmh. Des foules, je dirais, en désert de Dieu dans le temps.
Ah oui, l'image est belle.
Alors, le vieux Zacharie consent à du neuf. Il ratifie le nom inattendu, nouveau de son fils. Et puis, il adresse une prière de louange à Dieu. Donc,
ouais.
Il n'est pas une prière de déception,
ouais,
une prière de louange.
Il n'est pas malheureux de ne pas renouveler le modèle. On passe à autre chose.
Alors, tout ça, nous dit Luc, crée de l'étonnement dans l'entourage et même de la crainte. C'est normal, car tout changement étonne et nous rend craintifs. Ce qui me frappe, enfin, c'est le sens des noms des trois personnages de cette histoire. Zacharie veut dire « Dieu se souvient ». Élisabeth, Dieu tient promesse.
C'est le sens de son nom?
Du nom d'Élisabeth. Et puis le nom, le sens du nom de Jean, ça veut dire « Dieu fait grâce ». Il y a pour nous, dans ces trois noms, un programme pastoral. Le programme pastoral, c'est nous souvenir de la promesse de Dieu pour nous ouvrir à sa grâce qui nous pousse dans son avenir. C'est pas notre avenir, c'est l'avenir de Dieu dont il faut s'occuper.
Eh bien, Rémi Bourdon, merci de nous avoir fait part de vos rêves, de vos projets. Bravo pour la ténacité puis l'enthousiasme que j'entends encore dans votre voix VOIX. Et je vous souhaite la meilleure, pas chance, parce que c'est pas de la chance, ça. Il faut juste tenir son bout puis convaincre assez de gens de le faire avec nous. Alors, je vous souhaite que cela arrive pour les nouveaux projets dont vous rêvez.
Merci, Francine.
Merci beaucoup, Rémi. Alors, en votre nom, madame, monsieur, je remercie encore une fois Rémi Bourdon pour le regard qu'il a porté sur le passé, mais surtout pour le regard qu'il porte sur le présent et l'avenir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai l'impression d'avoir moins de patience que lui. Peut-être qu'on doit gagner à cultiver la vertu d'espérance et de ténacité. Je me permets de vous signaler un autre persévérant et tenace dont Rémi Bourdon a parlé d'ailleurs. C'est Mgr Albert Rouet, qui était l'évêque du diocèse de Poitiers, qui a implanté ses expériences de communauté chrétienne locale. Quand il est venu l'an dernier à l'Institut de pastoral, Mgr Rouet a aussi fait une entrevue avec nous, une entrevue d'une heure, sur exactement ce sujet-là. Et cette émission, elle est disponible sur le site Internet de l'Institut. C'était bien sûr une émission de Radio Ville-Marie. Je mettrai aussi sur le site les liens vers les sites Internet dont Rémi Bourdon a parlé. L'adresse du site de l'Institut est ipastorale.ca. Je vous remercie d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Au microphone, c'est Francine Robert de l'Institut de pastoral des Dominicains. Merci aussi à Hélène et Nathalie pour leur soutien technique, ainsi qu'à Louis Lesage qui coordonne cette série « Foi et turbulence ». Je vous donne rendez-vous dans un mois. D'ici là, je vous souhaite du soleil et à plus court terme, une excellente journée sur les ondes de Radio Ville-Marie.